L'information est donc tombée il y a une heure en Géorgie. Mikhail Kavelashvili, seul et unique candidat à la présidentielle, celui du parti pro-russe au pouvoir, le rêve géorgien, a été désigné président après plus de 3 semaines de manifestations pro-européennes dans le pays, des manifestants, qui conteste les résultats des législatives le 26 octobre dernier qui ont donné la victoire au parti pro-russe et l'annonce du gouvernement de geler les négociations d'adhésion à l'Union européenne de la Géorgie jusqu'en 2028. Et pour en parler, je reçois ce midi sur RFI Sylvia Serrano. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, professeure à Sorbonne Université, chercheuse au laboratoire Eurorbem et au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens. Première question, qui est Mikhail Kavelashvili?
Comme vous l'avez dit, Mikhail Kavelashvili est un footballeur. Donc c'est un joueur de football, connu des amateurs de football, mais qui a joué un rôle très minime jusqu'à présent sur la scène politique géorgienne et qui a été choisi pour cela. C'est-à-dire que ce candidat sera complètement contrôlé par le parti et par celui-là même qui contrôle le parti du rêve géorgien, à savoir Bidzina Ivanishvili.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il est légitime? C'était le seul candidat à cette présidentielle puisque l'opposition elle a décidé de boycotter ce scrutin.
Oui, alors effectivement, d'emblée, sa légitimité est extrêmement faible, non seulement parce que c'était le seul candidat, mais également parce que, de toute manière, le collège électoral qu'il a élu est lui-même, joue lui-même d'une faible légitimité dans la mesure où les élections qui se sont déroulées le 26 octobre, comme vous l'avez dit, sont des élections contestées. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est justement de savoir qui va le reconnaître comme président, et notamment à l'international, quels sont les pays qui vont reconnaître ou non son élection. Vous avez dit sa nomination, effectivement, ça s'assimile plus à une nomination qu'à réellement une élection. Au sein de la société géorgienne, le profil de cet homme suscite quand même beaucoup de résistance, voire sa nomination apparaît presque comme une humiliation, puisque c'est quelqu'un qui jouit de compétences extrêmement limitées, qui n'a pas fait d'études supérieures, qui n'a un profil qui est évidemment totalement différent du profil de la présidente actuelle, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir à son égard par ailleurs.
Sylvia Serrano, vous le disiez, ce n'est pas une élection, c'est une désignation, parce que pour la première fois dans l'histoire de la Géorgie, cette présidentielle, elle n'était pas au suffrage universel direct, mais indirect. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce changement du mode de vote ?
Oui, alors la faible légitimité, elle vient pas tellement du mode du scrutin, mais elle vient plutôt de la contestation du résultat des dernières élections législatives. En fait, effectivement, jusqu'à présent, le président était élu au suffrage universel direct, et un amendement constitutionnel qui avait été adopté en 2017 avait changé le mode de nomination et également réduit les pouvoirs du Parlement. Mais on était alors dans une logique, en fait, plutôt de renforcement de la démocratie parlementaire. Donc là, on a un jeu un petit peu à l'inverse de ce qui avait été recherché, en fait.
Ouais. Alors, Salomé Zourabichvili, qui était jusqu'ici présidente, elle le reste a priori jusqu'au 29 décembre. Elle a déjà prévenu, elle refuse de rendre son mandat tant que de nouvelles législatives ne sont pas organisées dans le pays. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment faisable? Est-ce que c'est jouable?
Alors, on est aujourd'hui en Géorgie dans une situation qui est quasiment une situation insurrectionnelle, avec, comme vous l'avez dit, des manifestations qui se déroulent de manière ininterrompue depuis plus de 2 semaines, mais qui ont des racines profondes, puisqu'il y avait eu déjà des mouvements de protestation très très importants en 2023 et en 2024. Donc, dans une telle situation, avec des ralliements également de plus en plus amples, semble-t-il, dans ce type de situation, évidemment, il est très très difficile de faire des prévisions. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a une société qui est divisée, une crise politique profonde à laquelle vient s'ajouter une crise institutionnelle. Ce qui est clair également, c'est que le rêve géorgien ne rendra pas le pouvoir s'il n'y est pas contraint. La réaction du rêve géorgien, donc le parti au pouvoir face aux manifestations de ces deux dernières semaines, a été de tenter de la répression contre les manifestants, la dispersion violente, avec des méthodes de dispersion et de maintien de l'ordre qui, pour le moment, sont des méthodes de dispersion telles qu'on les a connues, par exemple, en Europe, par exemple, en France, lors de la répression des différents mouvements sociaux de ces dernières années. Mais
et après contre l'opposition aussi.
Il n'est pas exclu que comment
et après il y a eu des perquisitions dans les locaux de l'opposition aussi.
Tout à fait. Il y a eu des passages à tabac et il y a également eu une répression judiciaire. Mais si on a une augmentation dans le degré de violence et s'il y a des bavures. Délibéré ou non, on risque d'assister à une bascule de l'opinion publique, et y compris de la base même du rêve géorgien. Donc là, on entre dans une période d'incertitude sur le très court terme, indépendamment même de la cérémonie d'investiture du président. Et sur le moyen terme, et ça je pense qu'il faut vraiment le souligner, on a aujourd'hui au pouvoir une formation qui est extrêmement affaiblie.
Merci.
Et la société géorgienne pardonnera pas l'usage de la violence contre le rêve géorgien.
Merci beaucoup Sylvia Serrano, politiste, professeure à Sorbonne Université, chercheuse au laboratoire Aurore Bay, mais au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européens.